Bonsoir, situation sécuritaire en Ituri, 18 villages de la chefferie de Walendu Wati dans le territoire de Djougou, totalement contrôlé par les miliciens du groupe armé Codeco. L'information est livrée par le responsable coutumier de cette entité. Il affirme que c'est hors la loi, collecte désormais des taxes et des vivres auprès de ses administrés. Et face au pillage des biens qui se poursuivent dans la zone, la population a vidé plusieurs villages pour se mettre à l'abri, signalant par ailleurs que 23 personnes ont été tuées, toujours par les miliciens de la Codeco, dans la nuit du dimanche à lundi, à Ndoki, Koli et Ndati, dans le même territoire de Djougou. Comment expliquer cette résistance de la milice Codeco et que faire pour pacifier de façon durable cette partie du pays? C'est notre thème de ce soir. Participe au débat Mokili Mungu Mungunuti David, voilà, coordonnateur du collectif Sauvons le Congo, une ONG basée à Maïgi en Ituri. Monsieur Mokili, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Dismas Kitenge, président du groupe Lotus, ONG des défenses de droits de l'homme, basé à Kisangani. Il est aussi vice-président honoraire de la Fédération internationale de droits de l'homme, FIDH en sigle. Monsieur Kitenge, bonsoir.
Bonsoir.
Et monsieur Onega, directeur des cabinets du gouverneur de l'Ituri. Monsieur Onega, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Vous êtes nombreux auditeurs de Radio Kapi à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Timothy Wilfried Binjo depuis Bounia, dans la province de l'Ituri. Je pense que le gouvernement congolais devrait chercher le vrai cerveau moteur, fournisseur de Codeco, car malgré l'arrestation et la mort de certains de leurs chefs, le groupe continue à s'aimer terreur et désolation au sein de la population de Djougou. En plus, l'option militaire ne donnera aucune solution pour éradiquer ce phénomène si ce n'est le dialogue. Merci de nous suivre à Maïgi dans la province de l'Ituri sous la 96.0. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
En Ituri, la situation sécuritaire est très préoccupante suite aux multiples attaques du groupe armé Codeco dans le territoire de Djougou et Maïgi et une partie du territoire des Rumou proche de Bouniaville. Environ 50 personnes ont été tuées en l'espace de 3 jours et 7 véhicules contenant des marchandises incendiées. Le trafic Bounia-Maïgi à Rou est suspendu depuis environ une semaine. Ce regain d'insécurité inquiète la population de l'Ituri qui fustige l'inaction de l'armée mais de la MONUSCO pour neutraliser cette milice. Le point avec vous, Isaac Remoyope et Dona Madimba.
Isaac Remo, bonsoir.
Bonsoir, Dona Madimba.
Pouvez-vous nous dire en quelques mots quelle est la situation ce soir en Ituri?
L'actualité est dominée par des multiples attaques simultanées du groupe armé Codeco dans plusieurs localités en territoire de Djougou et Maïgi ainsi que dans une partie du territoire d'Irumu. Les derniers cas s'est produit ce mercredi en secteur de Banyari Kilo, où 3 personnes ont été tuées par ces hommes armés au village de Makako et Tetete dans le territoire de Djougou. Le bilan provisoire est de 50 personnes tuées parmi les civils, les militaires des FARDC les assaillants depuis dimanche. Le trafic est également suspendu depuis 7 jours sur les tronçons Bounia-Maïgi Arou à la frontière avec l'Ouganda suite à la présence de ces hors-la-loi le long de la route nationale numéro 27.
À titre de rappel, pouvez-vous nous dire quelques faits saillants signalés depuis le début de cette semaine?
C'est surtout l'attaque lundi vers 4h du matin de la localité de Mwanga à 10 km de Bounia par ces miliciens qui ont tué 3 militaires et 2 policiers. Cela a créé la panique dans la ville de Bounia où des détonations d'armes lourdes et légères ont été attendues à l'aube suivies des mouvements des populations provenant des zones de combat. Cette attaque a suscité la colère de la population qui redoute l'incursion de cette milice à Bounia. Une manifestation spontanée de certains habitants a été étouffée par la police qui s'est déployée lundi au quartier Muzipela. En chefferie de Mambisa, environ 200 maisons ont été incendiées mardi au village de Lidjodé, pour ne citer que quelques cas.
Face à cette situation, quelle est la réaction des autorités politiques, administratives et militaires?
Selon l'armée, les FARDC sont intervenus dans toutes ces entités pour traquer ces hors-la-loi, dont 10 ont été tués au village des Mwanga. Le porte-parole des FARDC, le lieutenant Gilles Ngongo, rapporte que les forces loyalistes ont réussi également à déloger les assaillants dans plusieurs localités, notamment Nyampala, Pito et Pimbo sur la route nationale numéro 27, qui selon lui est déjà ouverte au trafic.
Et la réaction de la MONUSCO?
Selon la chef de bureau de la MONUSCO en Ituri, Cecilia Piazza, les casques bleus font des patrouilles aériennes et des opérations conjointes avec les FARDC dans la zone, outre des interventions ponctuelles pour la protection des civils. Elle soutient que la MONUSCO intervient dans les limites de ses moyens. Cependant, la MONUSCO ne doit pas se substituer à l'État congolais qui a la responsabilité première de sécuriser la population.
Isaac Raymond, je vous remercie.
Merci, Dona Madiba.
Monsieur Egwe Onega, je rappelle que vous êtes directeur du cabinet du gouverneur de l'Ituri. Quelle est la situation sécuritaire ce soir au moment où nous parlons dans le territoire de Djougou et Maïgi et une partie du territoire d'Irumu où les miliciens de Codeco, de la Codeco, ont occupé plusieurs villages?
Oui, merci beaucoup madame. Avant toute chose, je voudrais sincèrement présenter nos condoléances à toutes les familles qui sont endeuillées par ces conflits extrêmement meurtriers depuis bientôt 3 ans, toutes les familles, toute communauté de l'Ituri confondue, ainsi que les forces armées de la République démocratique du Congo, la police nationale congolaise et d'autres services de sécurité. Toutes ces familles, on doit vraiment à notre condoléance et à toute notre solidarité patriotique. Par rapport à la situation à l'Ituri, je pense, madame, que le plus important, c'est de savoir que des efforts sont en train d'être faits pour stabiliser la situation dans le territoire de Ndjougou avec son extension aujourd'hui depuis quelques temps dans les territoires de Maragi et les territoires de Rumu. L'événementiel au jour le jour, il y a tellement d'événements qu'on peut rappeler, mais je crois que c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de savoir que aujourd'hui la situation dans le territoire de Ndjougou, il y a de la résistance. Pourquoi on pose la question, pourquoi Codeco est en train de continuer à semer la mort et la désolation dans les territoires de Ndjougou? Madame, il faut savoir que Codeco, c'est un groupe, au départ, c'est un groupe mystique, fétichiste et belliciste, qui a une idéologie qui est en train d'injecter ou de diluer parmi la population, qu'elle prend également en otage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait que Codeco est en train de résister. Vous savez que nos forces armées sont très actives sur terrain, sur le théâtre des opérations. Et elles sont respectueuses du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Et dès lors que les populations sont prises en otage par Codeco, vous savez, les opérations militaires deviennent extrêmement compliquées. C'est la raison pour laquelle nous pouvons dire que c'est ça qui fait en partie que Codeco continue son œuvre funeste à travers les territoires de Ndjougou, avec extension dans les territoires de Maagi et les territoires d'Irumu. Voilà ce que je peux dire en commençant par rapport à la situation qui prévaut, qui est très préoccupante et qui est prise à bras le corps par les autorités provinciales, par les forces armées de la République démocratique du Congo, par la police nationale et tous les services, mais également par notre partenaire stratégique, la MONUSCO.
Alors, vous dites que des efforts sont en train d'être faits. Quels sont ces efforts, Monsieur Onega?
Bon, les efforts sont faits sur plusieurs plans, madame. D'abord, étant donné que Codeco, ce sont des miliciens ou des mouvements insurrectionnels, des personnes qui se sont permis de prendre les armes, ils doivent avoir en face d'eux les forces armées de la République démocratique du Congo, qui, au terme de la Constitution et des lois de la République, sont les seuls autorisés à porter des armes. Donc, ils ont en face d'eux les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont en zone d'opération dans les territoires de Djougou, mais également dans toutes les zones qui sont actuellement en extension d'activité de la Codeco. Donc ça, ce sont des efforts d'abord en termes d'opérations militaires pour arriver à neutraliser tous ces inciviques qui sèment la mort et la désolation parmi la population. Ça, c'est du point de vue militaire. Mais du point de vue civil ou politique, vous savez, le gouvernement provincial s'investit à pouvoir sensibiliser les populations.
Votre ligne en train de se détériorer. Votre ligne est en train de se détériorer un peu. Je sais pas, est-ce que vous pouvez bouger un peu pour essayer de l'améliorer?
Oui, vous m'entendez mieux maintenant?
Ça va bien, non?
Ça va mieux, madame?
Oui, ça va mieux, vous pouvez y aller.
Oui, je disais que du côté politique, le gouvernement provincial s'investit à travers des dialogues intracommunautaires et des dialogues intercommunautaires pour pouvoir demander à la population de pouvoir se désolidariser des Russes, de pouvoir les dénoncer, de faire de la résistance populaire et pourquoi pas livrer les enfants égarés à l'armée et à la justice pour que cesse finalement ce mouvement subversif, comme je le disais, qui cesse la mort et la désolation parmi la population.
Alors, 18 villages sont totalement contrôlés par ces miliciens. Aujourd'hui, on se demande comment ils ont fait pour occuper quand même 18 villages, Monsieur Onega.
Oui, mais ça c'est...
On a un souci avec votre ligne.
Opération militaire. Ils peuvent avoir occupé un village pendant 5-10 minutes, mais les informations à notre possession font état de ce qu'ils ont été repoussés. En tout cas, c'est pas dans tous les villages, dans la majorité de ces villages-là, par les forces armées de la République démocratique du Congo.
Merci à Monsieur Onega Mokili Mungunuti, David, coordonnateur du collectif Sauvons le Congo, une ONG basée à Mahagi, en Ituri. Comment vous vous expliquez ou quelle lecture vous faites de cette résistance des miliciens de la CODECO qui occupent aujourd'hui 18 villages de la chefferie de Walendu Wati dans le territoire de Djougou?
Merci beaucoup, madame. Je voudrais d'abord vous remercier pour nous avoir associés à cette émission. D'entrée de jeu, nous voulions commencer par dire que la chefferie de Walendu Wati, c'est dans le territoire de Mahagi et pas dans le territoire de Djougou. Donc, la situation est effectivement très préoccupante, madame, puisque, comme le chef de chefferie l'a dit, 18 villages vidés déjà de sa population, parce que les assaillants, les rebelles de Codeco sont en train de semer la désolation dans ces points-là, ça doit nous inquiéter, nous, comme société civile. Pourquoi? Puisque à ce moment ici, on est en train de voir la population se déplacer, quitter leur village. On les force à quitter leur village, aller vivre ailleurs, les enfants, les mamans, les personnes de troisième âge. Et puis, ils sont soumis à des taxes qui sont en train de payer pour les rebelles dans ces coins-là. Donc, ça démontre tout simplement que, contrairement à ce que le directeur de cabinet du gouverneur est en train de le dire, il y a l'absence de l'État dans ces coins-là, lorsque les citoyens commencent maintenant à payer des taxes pour les rebelles dans un pays où il y a des institutions établies. Ça, c'est de un. Deuxièmement, madame, notre inquiétude est que, comment aujourd'hui expliquer la résistance des miliciens de Codeco? On a tous demandé à ce que M. Ngoudjolo soit arrêté et aujourd'hui il est tué, madame. Mais Ngoudjolo est devenu, sa milice est devenue pire armée, ils sont devenus plus forts. Opération Zaruba Zaitouri, glacée par les FRDC, aujourd'hui, on constate contrairement, ce sont plutôt les rebelles de Codeco qui sont en train de traquer les militaires des FRDC sérieusement. Donc, les FRDC ont échoué dans la mission de neutralisation de ces miliciens-là jusqu'à aujourd'hui. Parce que cette affaire n'a pas commencé aujourd'hui.
Vous
aujourd'hui,
pensez que
ça a commencé depuis décembre 2017 jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune solution militaire qui est trouvée et la population continue à souffrir.
Alors, vous dites que ces miliciens sont surarmés. Vous pensez qu'il y a des gens derrière cette milice qui leur fournit des armes?
Madame, dans la brousse où les rebelles de Ngoudjolo sont en train de résider, on ne fabrique pas les armes. Dans la brousse où ils sont en train de se battre, dans les 18 villages qu'ils ont récupérés, on ne fabrique pas les armes. Donc, il y a des tireurs de ficelles, il y a des codeco à cravate qui sont soit des opérateurs politiques, socio-économiques, qui sont partis par là, qui sont en train soit de les encourager moralement, soit de les encourager même en leur donnant des armes, madame. Donc, on ne peut pas comprendre qu'après la mort de Ngoudjolo, que cette milice soit devenue
plus forte que l'armée congolaise aujourd'hui. C'est comme ça que nous avons dit que l'armée a échoué. D'autres choses, vous voyez, on a récupéré les camps militaires de Katanga, c'est dans la chefferie de Walendu Wasi. Comment comprendre cela? Une rébellion récupérée, cela. Ça, c'est saboter la République démocratique du Congo. On pouvait comprendre à 1998, à 2003, il n'y avait pas encore l'État congolais, il y avait la rébellion. Mais aujourd'hui, il y a des institutions établies. Il y a un président de la République. Il y a des institutions provinciales. On a élu 3 fois le président de la République. Donc, les choses devaient déjà marcher normalement. Aujourd'hui encore, on sent que rien n'est en train d'être fait, ou alors, si quelque chose est en train d'être fait, cette chose est en train d'être mal faite par l'armée. L'armée ne joue pas bien son rôle, parce que nous avons besoin qu'on neutralise déjà là. C'est pas cet échec de l'armée. Voilà, vous avez suivi la semaine passée, il y a des groupes qui s'organisent pour vouloir maintenant combattre Codeco. Pourquoi? Parce que l'armée a échoué dans sa mission, madame.
Alors, vous avez suivi monsieur Onega qui a dit tout à l'heure qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits sur le plan militaire et même civil. Par exemple, l'organisation des dialogues intercommunautaires demandant à la population de résister, de se désolidariser de ces miliciens. Est-ce que ça veut dire qu'au sein de la population, il y a des gens, des populations ou des gens qui collaborent avec ces miliciens, qui entretiennent ces miliciens?
Madame, vous savez, dans le territoire de Djougou, le mal de nos frères du territoire de Djougou, c'est l'hypocrisie. Ils ne sont pas francs. Ils ne sont pas francs dans ce qu'ils sont en train de faire. On peut tenir un dialogue tout de suite là. On s'attaque et non, nous devons mettre fin aux hostilités. Nous devons laisser que la guerre ne puisse pas continuer. Mais par hypocrisie, on fait comme si on avait écouté cela. Mais la réalité, après, c'est autre chose. Ce sont des crimes qui sont en train d'être commis, des génocides qui sont en train d'être commis. Le dialogue, nous l'avons encouragé, nous tous, nous avons participé à ça. Mais il faudrait que ce dialogue soit accompagné de la puissance des faits. Que l'armée puisse accompagner ce dialogue-là pour que nous puissions arriver à une solution définitive à cette situation-là. Parce que le dialogue seul ne va pas résoudre la situation. Nos frères et sœurs de Djougou doivent être francs. Ils doivent éviter de parler tribu. Nous devons tous parler Ituri. Nous sommes tous Ituriens. Nous avons besoin de la paix en Ituri. Nous avons besoin du développement en Ituri. Mais lorsque en Djougou on commence à dire non, telle c'est ma communauté, moi je suis Moulendou, moi je suis telle communauté, etc. Donc ça va nous conduire justement à faire perdre certaines valeurs qui nous unissent comme peuple itourien.
Merci.
C'est ce qui divise et c'est ce qui nous conduit justement à des hostilités qui ne prennent pas fait jusqu'à ce jour, madame.
Merci, monsieur David Mokili Dismas Kitenge, président du groupe Lotus, une ONG de défense de droits de l'homme basée à Kisangani. Vous êtes aussi vice-président honoraire de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH en sigle. Dismas Kitenge, comment vous analysez cette situation?
Merci beaucoup, madame, que m'écoutez. Je profite aussi pour saluer d'abord tous les auditeurs de la Radio Capi, également mes co-débatteurs. À ce qui me concerne, sur mon analyse sur cette situation qui prévaut maintenant avec la violence perpétrée par la CODECO, j'estime qu'il est très important d'aborder cela sous 2 points importants. Le premier point, c'est la compréhension et la maîtrise des enjeux de la persistance du conflit en Ituri. Et deuxième point, ce serait les causes directes de cette existence de la violence actuelle perpétrée par la CODECO. En ce qui concerne la compréhension et la maîtrise des enjeux de l'Ituri, je vais situer ça sous triple point. Il y a d'abord le problème politique. Hein. Nous avons depuis très longtemps en Ituri le problème de l'absence de l'autorité de l'État. Hein. Cette absence de l'autorité de l'État se fait sentir à chaque moment qu'il y a des problèmes. Il y a un deuxième enjeu important, c'est les enjeux économiques. Hein, les richesses, les commerces, que ce soit les groupes armés. Et principalement aujourd'hui, comme nous parlons de la CODECO, à travers ce qui se passe là, veut avoir accès aux richesses ou a accès aux richesses. Et donc ça, c'est les problèmes économiques. Les problèmes économiques sont très importants. Il y a aussi la circulation des armes, le trafic des armes dans cette région, les problèmes de la distribution des richesses. Et il y a aussi un problème aussi important, c'est les enjeux sociaux.
Hein, les enjeux sociaux, dans les enjeux sociaux, je pense au problème des leadership, au problème des leaders, la gestion, le rôle des élites et des communautés locales. Hein, ces problèmes de l'instrumentalisation, des conflits ethniques, des ethnies, des élites, et à Nitou, il s'est fait toujours sentir, et je reviendrai pour le démontrer suffisamment sur les cas aujourd'hui de la Codeco, de la crise que nous avons aujourd'hui, des violences, des violations des droits humains, des droits internationaux humanitaires par la Codeco aujourd'hui.
Donc, alors, lorsque vous parlez d'absence, d'autorité de l'État, d'Ismaël Kitenge, pourtant on a quand même un gouvernement provincial sur place en Ituri. Est-ce que vous voulez dire qu'on ne sent pas ce gouvernement?
Et quand je dis ce n'est pas que le problème du gouvernement provincial, et aussi le problème du gouvernement national et provincial. C'est-à-dire l'État a des difficultés à se manifester, à se pérenniser à travers ses moyens. L'État existe, mais les difficultés aujourd'hui de s'affirmer comme État, de pouvoir résoudre ce problème de l'insécurité en Ituri d'une façon permanente, c'est ça qui fait défaut. Les autorités locales ont quand même la volonté, elles font ce qu'elles font, mais elles doivent être soutenues par le gouvernement national qui agit sur l'armée, sur la police, sur les forces, les services de renseignement. Et ça, je vais pouvoir les démontrer dans ce que je disais. Je disais qu'il y a des enjeux importants en Ituri. Si on ne maîtrise pas ces enjeux-là, on ne va pas résoudre le problème qui se passe. C'est ce que je voulais démontrer en introduction, qu'il y a des enjeux importants sur le plan économique, il y a des enjeux importants sur le plan politique, il y a des enjeux importants sur le plan social, et il y a des enjeux aussi importants sur le plan sous-régional. Puisque, en fait, le conflit qui se passe aujourd'hui, la circulation des armes, l'entretien des groupes armés, n'est pas que encouragé par les autorités nationales, mais aussi la complicité des autorités sous-régionales. Bon, voilà, ça m'amène à parler maintenant de la cause directe de la violence actuelle perpétrée par la CODECO, hein, coopérative pour le développement du Congo, il s'appelle comme ça, mais elle se transforme en mouvement armé. Le premier point important, c'est la faiblesse de l'État congolais. La faiblesse de l'État congolais au niveau de l'appareil sécuritaire de l'État. Ce qui arrive, nous avons les services de renseignement, qui n'ont pas le moyen d'anticiper les conflits, d'avoir des informations suffisantes. Partout au monde, on ne peut jamais gagner une guerre si on n'a pas la maîtrise des informations, si on n'a pas des services de renseignement efficaces, performant, capable d'avoir d'anticiper, de connaître le profil des acteurs, d'agir sur les acteurs. Et c'est la collecte de ces renseignements-là, c'est ça qui permet maintenant à l'armée d'agir. L'armée peut avoir tous les moyens possibles du monde, mais si l'armée ne dispose pas des informations fiables, fouillées, analysées, pour comprendre les enjeux, pour comprendre les acteurs et savoir comment agir sur les acteurs, l'armée sera toujours surprise. Donc la première faille que nous voyons d'abord à travers cette crise de l'Ituri et aujourd'hui les attaques perpétrées, la violence de la CODECO, démontre clairement que les services de renseignement sont défaillants. Nos services de renseignement qui n'arrivent pas à collecter les informations sur les acteurs, à savoir à quel moment les attaques, anticiper les attaques, avoir la capacité d'agir, de traiter les informations et de donner. Et deuxièmement, c'est l'armée, l'insuffisance de moyens humains. Je dirais humain, bon, je ne dis pas que totalement on manque des hommes, mais on n'a pas la capacité aujourd'hui à ce qui concerne par exemple la police. Il y a le travail que l'armée doit faire, mais il y a le travail que la police doit faire. Aujourd'hui, dans les cadres de l'Ituri, la police n'est pas bien implantée dans tous les coins, le recoin de l'Ituri. Donc l'armée a des problèmes, il faut avoir des hommes mieux formés, et quand je parle de difficultés des moyens humains, il n'y a pas que l'insuffisance des hommes, mais des hommes aussi formés à faire face à la guérilla. Hein, puisque la CADECO, ce qu'elle utilise, c'est une forme de guérilla. Une forme de guérilla à la fois rurale et la forme de guérilla urbaine. Donc qui se transforme, qui a la capacité. Donc voilà, il faut avoir des hommes mieux formés à faire face à la guérilla.
Merci.
Il y a aussi des problèmes de moyens matériels. Non, je n'ai pas terminé de demander une minute.
Brièvement, allez-y.
Problème de moyens matériels financiers, mais il y a aussi l'insuffisance de moyens locaux et faible soutien aux autorités locales. Il y a aussi l'existence des réseaux mafieux et des complicités locales à trois niveaux, au niveau local, matériel et sous-régional. Donc, je pense que ça, aujourd'hui, que notre armée n'a pas le moyen, puisqu'il faut utiliser même les drones pour savoir comment ces mouvements se déplacent, les autorités locales n'ont pas des moyens suffisants, n'ont pas un soutien suffisant dans ce qu'elles font, mais il y a aussi cette existence des réseaux mafieux, mais il y a aussi la faible implication des leaders et des communautés locales dans l'approche de solution des problèmes.
Voilà. Merci, Dislas Kitenge. Merci beaucoup. Monsieur Ougwe Onega, directeur des cabinets du gouverneur de l'Ituri, Jean Bamanissa, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kananga au Kasaï central.
La situation qui se passe en Ituri est déplorable et inquiétante pendant cette période où le monde entier fait face à la pandémie de coronavirus. La solution, à mon avis, pour que la milice Codeco soit traquée jusqu'à son dernier retranchement, reste l'instauration de l'autorité de l'État dans cette partie du pays et l'armée devrait jouer véritablement son rôle. Car ce qui se passe sur terrain démontre que l'État est quasiment absent dans cette partie du pays. Et cette situation qui préoccupe tout le monde nous pousse à nous interroger sur l'impact de la présence de nos éléments de force dans ces coins et qu'en est-il de l'état-major installé dans l'est du pays, car il y a cela plusieurs mois.
On va ajouter cette réaction de François Ali Pachou ou Pardjoui, voilà, qui nous écrit depuis Maagui. Il dit ceci: le gouvernement est dépassé et abandonné la population à son triste sort. Ces rebelles progressent calmement sans être inquiétés. Actuellement, ils sont proches de la ville de Maagui. Le pire est que ces rebelles s'attaquent à la paix, à la population. Monsieur Onega. Monsieur Onega, vous êtes en ligne? Je crois que nous l'avons perdu. La réalisation va essayer de le retrouver. En attendant que la réalisation le puisse le recontacter, on va prendre une autre réaction pour David Mokili, une réaction qui nous vient de Kisangani dans la province de la Tchopo.
Kisangani dans la province de la Tchopo. La résistance de cette milice se prouve insuffisante et l'absence de l'autorité de l'État dans cette contrée du pays et l'inefficacité de notre armée. Pour participer de façon durable, le gouvernement doit passer à une négociation dans un bref délai, permettant de rétablir ces territoires du pays transformés en un abattoir humain où nos frères, sœurs, frères meurent comme nous respirons.
Alors, Monsieur David Mokili, la proposition de Saïdi, qui nous appelle depuis Kisangani, c'est une négociation avec ces rebelles. Qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur Mokili? Monsieur Mokili, est-ce que vous m'entendez? Je crois qu'on l'a aussi perdu. Dismas Kitenge, est-ce que vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Alors,
je
on va prendre.
Ligne, écoute,
voilà, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Pasteur Paul Ngoï, depuis la vie province de Kinshasa à Mongafula. L'occupation du village par ces miliciens de Kiko plonge davantage tout un peuple dans le désespoir face à la menace persistante de l'ennemi, qui continue donc à opérer en conséquence avec l'intervention d'une menace extérieure dans l'instabilité de la paix dans cette partie du territoire national. Combien de fois et jusqu'à quand cet espace restera le théâtre des groupes armés qui tuent et imposent la loi comme si nos forces armées étaient incapables de les mettre hors de nos frontières? J'ai confiance en notre armée. J'appelle le gouvernement central, bien qu'il se fasse à l'épidémie du COVID-19, de doter nos forces, nos hommes, au front avec ce dont ils ont besoin.
Alors, Dismas Kitenge, fournir des équipements à nos forces armées pour arriver à mettre fin à cette milice qui dérange la population dans l'Ituri.
Oui, en partie, il faut donner le moyen à, non seulement à l'armée, mais à tout l'appareil sécuritaire congolais, en commençant d'abord par les forces de renseignement, les services de renseignement, qui doivent avoir la capacité de collecter les informations, de pouvoir les analyser et le donner à, au service des actions. Puisqu'au niveau des services sécuritaires, nous avons des services qui sont là pour des analyses, des collectes des informations et des services qui doivent agir. Et là, en premier lieu, à ce qui concerne les services d'action, nous avons l'armée. Si l'armée a de bonnes informations, connaît bien le terrain, connaît bien les acteurs, le moyen dont ils disposent, l'armée maintenant, si elle, à ce niveau, elle a aussi les moyens nécessaires, elle peut agir. Donc ça dit, il faut renforcer les capacités et le moyen de l'appareil sécuritaire en général, c'est-à-dire le service de renseignement, l'armée, la police, mais aussi il faut assurer leur collaboration. C'est-à-dire la collaboration, ça signifie qu'il faut aussi impliquer les populations, les élites, les communautés locales. Mais ce qui est aussi important en plus de ça, il faut mettre aussi les mécanismes d'inspection, d'évaluation sur le terrain, des concertations et d'implication d'autres acteurs sous-régionaux.
On a l'impression que l'utilisation, l'usage de la force, avec l'utilisation de la force, on n'arrive pas à neutraliser ces miliciens. Il y a un auditeur qui a proposé tout à l'heure une négociation avec ce groupe armé. Est-ce que ça pourrait être parmi les solutions pour arriver à pacifier cette partie du pays?
On ne peut jamais exclure une possibilité d'avoir la paix. Si le dialogue peut amener à quelque chose, il faut aussi le prendre en considération. Mais ce n'est pas l'unique moyen par lequel l'État peut passer pour pacifier la région de l'Ituri. Le dialogue, certes, il faut le maintenir, et les dialogues, on le maintient en tout moment, mais l'État doit avoir le moyen de l'affirmation de son existence, qui passe par le recours à la force, qui passe aussi par le recours au respect de l'État. C'est que s'il y a des gens, des groupes armés qui ont des revendications, ils peuvent faire leurs revendications en tant que citoyens, mais ne pas recourir à la violence, puisque le danger de préconiser et de privilégier les dialogues, ce serait un peu comme la reconnaissance de la violence comme moyen de pacifier, puisque ce serait un peu donner une sorte de prime d'impunité. Dialogue, oui, mais pas l'impunité. C'est-à-dire pas l'impunité qu'on doit garantir à ces gens. Puisque si chaque fois on dialogue avec eux et après on reconnaît, puisque dans ces dialogues-là, ils auront un cahier des charges, ils auront des revendications. Et si l'État prend en compte toutes ces revendications-là, ces gens vont entrer une partie dans l'armée, ils vont avoir des postes politiques. À ce moment-là, on risque de valider une position selon laquelle, pour accéder au pouvoir, il faut passer par la violence armée.
Merci, Disma.
J'ai dit oui, mais il faut poser des conditions à ces dialogues-là.
Et merci.
La première condition pour dialoguer, voilà.
Alors, on me signale que M. Onega est en ligne. Vous m'entendez, M. le directeur du cabinet?
Oui, bonsoir madame. Je suis désolé, mais il y a beaucoup de problèmes avec les réseaux là.
Oui, on a compris qu'il y avait un problème des réseaux. Alors, je disais qu'il y a des réactions pour vous. On va prendre celle-ci qui nous vient de Kananga, au Kasai Central.
Djibela Imorbert, Tatuka Djambouji, à Kananga, au Kasai Central. La situation qui se passe en Ituri est déplorable et inquiétante pendant cette période où le monde entier fait face à la pandémie de coronavirus. La solution, à mon avis, pour que la milice Codeco soit traquée jusqu'à son dernier retranchement, reste l'instauration de l'autorité de l'État dans cette partie du pays, et l'armée devrait jouer véritablement son rôle. Car ce qui se passe sur terrain démontre que l'État est quasiment absent dans cette partie du pays. Et cette situation qui préoccupe tout le monde nous pousse à nous interroger sur l'impact de la présence de nos éléments de force dans ces coins. Et qu'en est-il de l'état-major installé dans l'est du pays, car il y a cela plusieurs mois.
Alors, on va ajouter cette réaction de François Alipadjou pour vous, Monsieur Onega, qui dit ceci. Le gouvernement est dépassé, a abandonné la population à son triste sort. Ces rebelles progressent calmement sans être inquiétés. Actuellement, ils sont proches de la ville de Mahagi. Le pire est que ces rebelles s'attaquent seulement à la population.
Oui, merci madame. Je voudrais vraiment rassurer les uns et les autres que la population n'est pas abandonnée à son triste sort. Bien au contraire, c'est la préoccupation majeure du gouvernement provincial ainsi que des forces de l'ordre et des défenses qui se dévouent jour et nuit pour essayer de stabiliser la situation et mettre hors d'état de nuire tous ces miliciens qui qui sont en divagation à travers le territoire d'Enzougou et le territoire du Rumu.
Dans toutes les interventions qu'on a suivies, on parle tous en tout cas reviennent sur l'absence de l'autorité de l'État dans ce coin du pays.
Oui, je vais y arriver, mais je voudrais aussi rassurer que contrairement à ce qui vient d'être dit par les uns et les autres, que les forces armées de la République démocratique du Congo et les forces de la PNC ainsi que les services sont véritablement engagés sur le terrain et ils font du travail. Il faut apprécier ce travail, il faut être reconnaissant envers nos forces armées parce que plusieurs éléments parmi eux payent de leur vie pour que la paix puisse être rétablie dans les territoires d'Enjougou. Il est vrai que nous devons la restauration de l'autorité de l'État, c'est une activité permanente. Ce n'est pas quelque chose qui se fait sur un coup de baguette magique. C'est une activité permanente. Nous devons continuer à travailler pour consolider l'autorité de l'État dans toutes nos entités, dans toute notre province, dans tous les territoires, jusqu'aux entités les plus à l'échelon administratif le plus bas, c'est-à-dire au niveau des villages. Ça, c'est un travail permanent. C'est pas quelque chose qui peut être dicté, qui peut être fait parce que on dit il faut restaurer l'autorité de l'État. C'est un travail d'ensemble et qui n'engage pas seulement les autorités politico-administratives, mais qui engage l'ensemble de la population, chacun à son niveau. Je donne un exemple. Un chef de village a une population qu'il gère. Et cette population doit être soumise à l'autorité de ce chef de village-là. Et si le chef de village n'est pas respecté par sa population, ça peut poser problème. Et cela, évidemment, engage la responsabilité des uns et des autres. Il faut que nous tous, citoyens de ce pays, citoyens de cette province, nous puissions apprendre à respecter nos autorités pour que l'autorité de l'État qui le représente puisse être respectée. Donc,
alors, rapidement, vous allez répondre rapidement à cette question des Francs qui nous appellent depuis Bounia. Il dit ceci, est-ce que les miliciens de la CODECO sont plus forts que les FRDC ou l'État congolais? Je n'arrive pas à comprendre comment on n'arrive pas à maîtriser ces hors-la-loi.
Non, jamais. Jamais ils ne seront plus forts que l'armée, les forces armées de la République démocratique du Congo. Ça, en aucun cas, un groupe rebelle n'a jamais gagné contre une armée organisée, une armée loyaliste. Ce sont des groupuscules, c'est une question de temps. Je crois qu'avec les opérations qui sont engagées sur le terrain, d'ici là, nous allons certainement arriver à neutraliser, à stabiliser le territoire d'Enzougou.
Merci.
Aucun groupe armé ne pourra prétendre gagner contre une armée régulière.
Ça, merci, monsieur Mouneiga Mokili David. On va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani, une réaction à laquelle vous allez répondre brièvement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps.
Saïd Atibou de Kisangani dans la province de la Tchopo. La résistance de cette milice se prouve insuffisante et l'absence de l'autorité de l'État dans cette contrée du pays et l'inefficacité de notre armée. Pour pacifier de façon durable, le gouvernement doit passer à une négociation dans un bref délai permettant de rétablir ces territoires du pays transformés en un abattoir humain où nos frères, sœurs, frères meurent comme nous respirons.
David Mokili, pour pacifier cette partie du pays, il faudrait passer par les négociations.
Merci beaucoup, madame. Merci à cet auditeur qui a donné son intention. Nous estimons, quant à nous, que la négociation...
On a encore perdu David Mokili. Décidément, les lignes téléphoniques nous posent problème. Voilà, nous posent problème. Dismas Kitenge, nous sommes presque à la fin de notre émission. Comment ou qu'est-ce que vous proposez, Dismas Kitenge, comme solution durable pour pacifier cette partie du pays?
Merci. Premièrement, il faut donc doter des moyens suffisants, permanents, et les services, l'appareil sécuritaire global de l'État congolais, et obtenir une collaboration. Il faut que tout le monde collabore. Deuxièmement, il faut agir sur les élites et les communautés locales, c'est-à-dire il faut les impliquer, savoir les gérer, les contrôler, les responsabiliser, les évaluer sur la paix, sur la sécurité à Ituri. Troisièmement, il faut aussi bien gérer la question des ressources. Il faut que l'État puisse avoir accès à ces ressources, les contrôler, les gérer et les distribuer équitablement. Il faut aussi mettre le mécanisme de concertation régulière avec les acteurs locaux, les acteurs sous-régionaux, les impliquer, le maîtriser. mettre aussi en place des mécanismes d'inspection et d'évaluation régulière sur le terrain, et enfin renforcer les mécanismes de justice, c'est-à-dire pour lutter contre l'impunité des acteurs, mettre aussi les conditionnalités de l'accès au processus de paix sur le respect des droits humains, du droit international humanitaire. Mais pas considérer que le dialogue peut constituer une prime à l'impunité ou une prime à l'accès au pouvoir des dirigeants de ces groupes armés.
Merci. Dispas Kitenge, il y a cet auditeur Daniel Boulembo depuis Kisangani qui dit ceci. La résistance et la milice Codeco est un jeu politique. Ces miliciens sont soutenus par certaines autorités de cette localité pour spolier les richesses congolaises. Sam Kiabulo depuis Lubumbashi, tout ça est dû à la négligence de nos autorités. Comment une milice peut déstabiliser toute une partie de la province que font nos forces armées, le gouvernement provincial, le gouvernement central, pour mettre fin à cette instabilité qui déstabilise la vie des pauvres populations de ce coin. L'État congolais doit prendre les choses au sérieux et trouver une solution le plus vite possible pour que cette population soit libérée de cette insécurité au lieu de s'embrouiller sur des choses inutiles. Monsieur Ounega, qu'est-ce que vous vous proposez comme solution? Qu'est-ce qui pourra comme solution pour une pacification ou une paix durable dans cette partie du pays? Monsieur Onega? Monsieur Onega, est-ce que vous êtes en ligne? Je crois qu'il est parti. Voilà, il nous reste quelques secondes pour mettre fin à cette émission. On va l'arrêter là. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais. Guy Maté, Dona Madimba, Axel Gonto. Merci à Jean-Noël Mokondo qui était à la prise des sons. Présentation et coordination, Kelly Nkouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix. Restez chez vous et prenez soin de vous.